des livres plein les oreilles. Salut, salut, c'est Clotilde Seil. Que vous m'écoutiez via CKVL, via CanalM ou encore en balado, je suis heureuse de vous présenter une nouvelle fois l'émission Des livres plein les oreilles. J'ai toujours dit que derrière chaque ride se cache une histoire. Eh bien, dans le cas de Lise Dion, que je reçois aujourd'hui, je pourrais plutôt dire que c'est derrière chaque rire que se cache une histoire, notamment celle de sa maman adoptive, Armande, une histoire qui a touché des dizaines de milliers de lecteurs et qui a été traduite dans je ne sais plus combien de langues lorsque c'est sorti sur papier il y a quelques années. Alors il était plus que temps d'en faire un livre audio, et qui devait lire ce livre ? Eh bien évidemment celle qui porte l'histoire de cette maman, de cette Armande que la vie a conduite dans les camps allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui, tout un choc pour sa fille, mais aussi tout un héritage que Lise a couché sur papier parce que, comme elle l'a dit elle-même, Armande ne pouvait pas avoir enduré tout ça sans que j'en parle. En seconde partie de l'émission, quelques mots brefs, le comte de Monte Cristo et surtout les trois mousquetaires qui n'en finissent plus d'être les héros du grand écran. Il y a d'autres projets en cours. Alors je me suis demandé ce qu'on avait de Maître Dumas père dans le domaine du livre audio. Et puis des nouveautés, notamment le petit dernier de Christophe Granger, le maître du polar noir, et la très attendue Midnight Sun de la série Twilight. Et puis peut-être aussi un petit Gallimard audio si le temps nous le permet. Mais d'abord, Lise Dion. Salut Lise.
Bonjour Cathy.
Lise, avant de commencer l'entrevue et avant d'en écouter déjà un extrait, je voudrais vous offrir quelques notes de musique. Je vous explique. Patricia Hall est une professeure de solfège à l'Université du Michigan. Elle a aussi redonné vie à des compositions qui ont été créées et arrangées par des prisonniers à Auschwitz.
Wow.
Ouais. Auschwitz. Buchenwald, où votre maman a été emprisonnée, même combat, on s'entend, même camp de concentration allemand, même mission. Et cette femme-là s'est appuyée sur des manuscrits qu'elle a retrouvés en 2016 lorsqu'ils ont effectué des recherches au musée d'Auschwitz-Birkenau. Ce sont des arrangements très particuliers parce qu'ils ont été adaptés aux instruments qui étaient disponibles à l'époque dans les camps, parce qu'on ne retrouvait pas tous les musiciens et on ne retrouvait pas évidemment tous leurs instruments. Et il y a une de ses œuvres qui s'appelle « Die schönste Zeit des Lebens ». Ça veut dire en français « la plus belle période de la vie », en plus. Imaginez.
Wow.
Et à l'origine, elle a été composée, arrangée par deux compositeurs polonais qui étaient enfermés à Auschwitz et qui ont survécu d'ailleurs. Et c'est un jeune étudiant avec cette professeure de solfège-là qui ont réarrangé ça et ils ont fait jouer un orchestre ces quelques mesures de cette musique qui avait été composée dans les camps de la mort parce que c'est terrible, mais l'orchestre jouait des marches pour accompagner les va-et-vient des prisonniers et notamment vers les morts. C'est comme ça. On en écoute un petit extrait de cette musique,
oui.
Lise Dion, et juste après, on va écouter votre voix, lire un extrait de votre livre, Le secret du coffre bleu.
Il ne me restait que le gros coffre bleu à délivrer de son contenu. Le mystérieux, l'insondable, l'intouchable coffre bleu qui m'a intrigué durant toute mon enfance parce qu'il était toujours fermé à clé. J'ai soulevé doucement le grand couvercle. Le silence était lourd, mais aucune réprimande n'est venue le briser. Au fond du coffre, il y avait une boîte noire de grandeur moyenne. À l'intérieur se trouvaient plusieurs images pieuses, un étui de velours contenant un chapelet noir, passablement usé par les mains qu'il avait égrenées, un missel écorné de même couleur et des médailles de différents saints, dont Saint Christophe, Saint Joseph, et surtout beaucoup d'images et de petites statues de la Vierge Marie. Au fond de la boîte, je découvris une photo de ma mère avec son frère Rosaire. Elle était vêtue en religieuse. J'en croyais pas mes yeux. Pourtant, c'était bien elle. Je la reconnaissais malgré son jeune âge. Le voilà sans doute son grand secret. Mais il y avait d'autres secrets que la boîte ne tarderait pas à me livrer. Des papiers rédigés en allemand faisaient état de son arrestation. C'était à ne rien comprendre.
Ah, Lise, Lise Dion.
Hey, je ne m'attendais pas à une musique aussi joyeuse.
C'est fou, hein? Ben oui, mais oui. Vous savez pourquoi, hein? Il leur mettait comme ça des marches joyeuses et, ben oui, alors que pour la plupart, entre autres, quand on les gazait, il y avait l'orchestre, ben ils ne jouaient pas que ça, mais c'était une commande, je pense d'ailleurs, des Allemands qui profitaient en quelque sorte des musiciens qui étaient sur place pour s'offrir un petit peu de bon temps. Alors, ouais. On remonte dans le temps, Lise?
Oui.
Un petit retour en arrière, vous avez une trentaine d'années lorsque celle qui vous a adopté décède, sans malheureusement, et d'ailleurs vous le regrettez dans votre livre, n'avoir jamais rien su de votre succès en tant qu'humoriste. Mais là, moi, je voudrais parler de votre maman et de vous. OK, on va laisser un petit peu de côté l'humoriste. Vous, oui. J'ai l'impression, en lisant Le secret du coffre bleu, que vous ne saviez pas grand-chose, finalement, de cette maman adoptive?
C'est-à-dire qu'il y a des parties de l'emprisonnement qu'elle m'a racontées. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était religieuse. Ça, elle ne l'a jamais dit. Ah. Elle avait arraché les photos sur les passeports pour pas que je les trouve, pour pas que je la voie en habit de religieuse. Mais finalement, dans le coffre, j'ai trouvé une photo d'elle avec son frère où je dis qu'elle a l'habit de religieuse. C'est là que j'ai compris les secrets qu'elle voulait me cacher. Mais quand elle m'a raconté le camp, elle me disait qu'elle avait été arrêtée seulement parce qu'elle était sujet britannique et non... Pas, je ne savais pas qu'elle était religieuse du tout. Mais déjà, quand elle m'avait raconté un des parties de son emprisonnement, je la voyais comme un super-héros, dans le sens que d'abord, moi, à 30 ans, quelqu'un qui va en Europe, c'est parce qu'il y a un peu d'argent, c'est parce qu'il y a un voyage intellectuel et culturel à faire.
Sur le France, en plus. Sur le France, incroyable.
Jamais j'aurais imaginé que ma mère était pouvait aller en Europe. Ça, j'ai su plus tard de qui parvenaient les sous pour y aller. Mais c'était une grande surprise pour moi. Puis en plus, qu'elle ait eu quelque chose à voir avec la Deuxième Guerre mondiale, ça m'a jeté à terre. Je la voyais vraiment comme un super-héros.
Comment on se sent dans ces cas-là? Parce que moi, je vous imagine, bon, vous avez 37 ans à l'époque, vous êtes assise près de ce coffre bleu et vous découvrez toutes ces parties de sa vie, toutes les parties de sa vie que vous ignoriez. On doit ressentir un vide énorme.
C'est-à-dire que je pensais j'ai jamais imaginé ma mère avec autant de souffrance, dans le sens que pour moi, j'ai pensé que ma mère avait quand même eu une vie dans la pauvreté, une vie effacée, une vie sans vraiment de couleur, de pas de souffrance. Je l'imaginais dans une vie peu routinière, mais pas que quelqu'un lui avait fait mal à ce point-là. Mais elle me l'a raconté vers la vingtaine à peu près, parce que j'ai remarqué, même en allant au Salon du livre, que les gens qui venaient me confier des choses, parce que chaque famille a des secrets à peu près, ils me racontaient que leur père ou leur grand-père avait fait la Deuxième Guerre mondiale et ils n'en parlaient pas. Fait que c'est ceux qui ont été prisonniers, mais même ceux qui ont fait qui sont allés dans les tranchées, c'est dur de leur faire leur faire dire leurs souvenirs, parce qu'ils ont perdu des gens qu'ils aimaient. Ils veulent pas revivre ces moments-là. Et je les comprends tellement. Comme j'ai vu des reportages de gens qui ramenaient leur mère à Auschwitz pour leur montrer maintenant ce que ça avait l'air, ou de leur faire revivre des souvenirs. Puis je trouvais ça un peu exagéré.
Un peu morbide, presque.
Qu'on a envie de revivre, tu sais. C'est parce que toutes les images reviennent à la surface, les douleurs. En tout cas, moi, j'en revenais pas que ma mère ait souffert à ce point-là.
Alors vous, ce sont des images, celles que vous a racontées votre maman, mais c'est pas comme ça que c'est expliqué dans le livre. Ça a été un petit peu, entre guillemets, romancé. Mais est-ce que la lettre existait? Est-ce que la lettre que votre maman vous écrit...
Non, elle n'existe pas, mais...
Mais c'est bien dommage, hein? Ouais, quelle jolie lettre, en tout cas.
Ça aurait pu être ses mots.
Exactement.
Ce que je voulais faire, c'est que quand j'ai commencé le livre, je voulais le faire d'une façon narrative en consacrant un chapitre à mes recherches et un chapitre à ce que ma mère a vécu, mais c'était d'une platitude. J'ai arrêté ça tout de suite et je me suis dit, bon, je vais parler dans le premier chapitre des circonstances de sa mort et tout ça, et ensuite je vais la laisser parler en supposant qu'elle avait les fameux journaux, son écriture à elle. Alors j'ai sauté au livret, au petit livret, parce que je voulais pas que ce soit moi qui le raconte. Je voulais que ce soit elle. Alors je suis venue au premier chapitre, puis je reviens au dernier chapitre. Le reste, c'est tout ce qu'elle a vécu.
Exactement.
Mais c'est sûr que c'est un peu romancé, parce que comme elle était décédée, je pouvais plus lui poser de questions.
Bien sûr.
Mais elle m'avait donné des petites brides
de ça.
Comment ça s'était passé sur le bateau, comment tout. C'est-à-dire que tout ce qui est arrivé dans le camp, c'est elle qui me l'a raconté.
Mais
j'ai mis d'autres personnages comme, par exemple, la Tsigane.
Oui.
Parce que en faisant des recherches, j'ai trouvé une pétition qu'on pouvait encore signer pour qu'on parle du peuple.
Oui, absolument.
Parce que
les Romanichels qui ont été, au même titre d'ailleurs que les homosexuels ou les communistes, qui ont été, tout ça on le sait moins, mais ils ont vécu également une persécution de la part des Allemands nazis. Je précise toujours nazis parce qu'il y a tellement une grande partie de l'Allemagne qui n'est pour rien, je dirais, qui maintenant vivent avec ce passé-là qui est quand même très, très lourd sur leurs épaules. Mais bon, l'Allemagne nazie, c'est ça, on a pourchassé plus d'un. Et vous avez raison, les Tziganes et les Romanichels en faisaient partie.
Ça a été un peuple complètement décimé, quasiment. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le livre, je voulais, quand elle a un petit flirt avec un des soldats, c'est que je voulais absolument qu'on comprenne que c'est pas tous les Allemands, même s'ils faisaient leur devoir, c'était pas tous les Allemands qui étaient d'accord avec cette guerre-là, puis je voulais absolument qu'on comprenne ça, parce que, comme vous le dites, c'est un passé très lourd à porter.
Ah oui.
Et j'ai été faire un tour en Allemagne en 2001, et je suis arrivée dans un petit village à Garmisch, et j'ai vu deux messieurs assez âgés se saluer comme Hitler, et j'ai eu un frisson dans le dos, là. J'avais les deux jambes sciées. Vraiment.
Surtout que Garmisch-Partenkirchen, c'est à la frontière entre la Bavière et l'Autriche. Et on sait que Hitler n'était pas allemand, Hitler était autrichien.
Oui,
et
exactement.
Il reste encore beaucoup en Autriche. Malheureusement, il y a encore un bassin là de nazisme qui est pas vraiment grouillant, mais qui est comme un volcan un petit peu éteint, et ça prendrait juste une flamèche pour que ça reparte, quoi. Avant qu'on écoute un second extrait, c'est au moment, j'ai choisi au moment où elle vient de se faire arrêter. Elle est dans l'incompréhension la plus totale. Mais aujourd'hui, on peut affirmer que si elle n'avait pas pris le voile, elle n'aurait jamais connu les camps de concentration en Allemagne, finalement?
Non. Hein? Eh ben, elle n'aurait pas été en Europe, de toute façon.
Alors, on écoute l'extrait.
Oui.
Je demandais alors aux gens autour de moi ce que signifiait un camp d'internement. On m'expliqua qu'on y envoyait ceux qui étaient arrêtés et là, on les forçait à travailler. À 15 heures, un autre camion est venu nous chercher à la mairie. Nous nous sommes assises, les deux autres religieuses et moi, le plus loin possible des Allemands, sur un banc de bois à l'arrière du camion, en nous disant qu'ils ne pourraient pas nous voir pleurer. J'étais inconsolable et je ne pouvais m'empêcher de trembler. Ma cousine et moi, nous nous tenions si fort la main que notre sang n'arrivait plus à circuler. Soudain, une femme se leva et tenta de se précipiter à l'extérieur du camion en marche. Un soldat l'attrapa par le bras et la força à se rasseoir en lui assénant un solide coup de crosse de fusil dans les côtes. Mes tremblements s'amplifièrent et je cachai mon visage dans mon voile pour ne plus rien voir. Sœur Marie Wilbrod nous prit dans ses bras et essaya de nous calmer. Elle demeurait calme et ne pleurait pas. Je me demandais comment elle se contrôlait de la sorte alors qu'elle, comme nous, était confrontée à une violence extrême pour la première fois de sa vie. Le camion s'arrêta en chemin pour faire monter d'autres prisonniers, dont une Française de 72 ans, arrêtée parce qu'elle avait été mariée à un Britannique, même si elle était divorcée depuis longtemps.
Lise Dion, vous avez écrit tout ça, vous vous êtes remémoré tout ça, vous avez fait beaucoup de recherches, tout en faisant rire. Vous avez fait comment?
Oh mon Dieu!
Facilement? Non, vous n'allez pas me dire ça.
Non, mon Dieu. Il y a des matins où j'ouvrais l'ordinateur puis je pleurais, puis je me disais, je ne serais jamais capable de mener ce projet-là à terme. Parce que, d'abord... En faisant des recherches sur Internet, j'ai ouvert une grande, grande boîte de Pandore.
Oui.
Et à chaque fois que je cliquais sur quelque chose, il y avait d'autres horreurs, il y avait d'autres... Ça a été très difficile et moi, je voulais raconter l'histoire, mais je dis, je suis une auteure de textes drôles et non pas de fouiller dans l'histoire. Et ma marraine chez Libre Expression m'a dit, Lise, parce que moi, j'avais l'impression d'avoir la guerre sur le dos complet comme pression. Puis je me disais, elle me disait, mais non, Lise, c'est l'histoire de ta mère. Des livres sur la guerre, ils en ont écrit plein. Ce qu'on veut comprendre, c'est ce qui est arrivé à ta mère et non pas les dates que la guerre a commencé. Mm-hmm.
C'est vrai. Mais non.
J'ai eu besoin beaucoup, beaucoup d'encouragement de la part de Joanne Gay pour continuer parce que... C'était pas dans mes cordes, ça, un livre historique. Et en plus, mais en même temps, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, je voulais pas qu'elle ait souffert ça pour rien. Donc, j'ai travaillé très fort pour arriver. Puis bon, comme croit ou comme croit pas, il y a des jours où je suis sûre qu'elle me donne un coup de main parce que il y avait des problèmes de pages blanches. Puis d'autres matins, il y avait quasiment de la fumée après mes boutons d'ordinateur. Tellement les idées sortaient. Mais en même temps, je l'ai tellement connue, je l'ai tellement sentie avec moi parce qu'on était toutes les deux toutes seules pendant un bon bout de temps, que ce que j'ai raconté en romance, c'est à peu près ce qu'elle ressentait au quotidien. Tu sais, comme l'exemple de quand elle enlevait son habit de religieuse le soir, j'ai écrit qu'elle se grattait beaucoup le cuir chevelu parce qu'elle avait de la misère à endurer quelque chose sur sa tête, sur son corps. Pour vous donner un exemple, c'est qu'à un moment donné, elle a eu un cancer. Puis quand elle était malade, j'ai dit... Maman, est-ce que tu veux qu'on garde ton appartement ou tu vas venir habiter avec moi? Elle me dit non, je veux garder mon appartement. J'aime ça me promener tout nu dans la maison, vu les stores fermés, je suis à l'aise. Fait que je me suis dit, elle a porté un costume tellement longtemps qu'elle a besoin de faire respirer son corps. Tu sais,
et elle en a porté beaucoup des costumes et pas forcément des costumes qu'elle a choisis. Bon, le costume de religieuse, elle le dit elle-même à un moment donné, elle n'est pas sûre d'aimer Dieu. Bon, elle a embrassé cette carrière-là, si on peut dire ce mot-là, mais bon, alors il y a eu ce costume-là. Ce qu'on leur donnait dans les camps, c'est-à-dire, ils étaient habillés n'importe comment, les lits étaient pleins de punaises, c'était d'une saleté innommable. Les paillasses sur lesquelles ils dormaient pendant des années n'étaient jamais nettoyées. Jamais,
non.
Hein.
Non.
Alors, on peut comprendre que cette femme-là, mais pourtant, en plus qu'on a obligé, notamment, évidemment, à se mettre nue quand elle arrive dans le camp, et pour une religieuse,
ouais.
Mais ça devait, je veux dire, c'est terrible pour tout le monde, c'est une épreuve pour tout le monde.
Exactement.
Mais en plus...
Dans le livre, il y a Simone qui l'accompagne
oui.
beaucoup. Simone, qui était une autre Québécoise, ma mère m'a jamais parlé d'une femme qui s'appelait Simone, et je pense, elle m'a jamais parlé des femmes qui étaient sur la paillasse.
Ouais.
Il a fallu que je les invente. Mais Simone, je voulais montrer qu'avec l'amitié, la résilience,
ah oui.
on arrive à passer au travers des choses. C'est parce que si tu te sens toujours soutenu en amitié, il y a quelqu'un qui va t'encourager à passer au travers, c'est sûr. Donc, je pense pas que... Ben, je pense que ma mère aurait passé au travers quand même, mais je voulais montrer que l'amitié, la solidarité... C'est quelque chose qui peut te sauver la vie. Tu sais, fait que je voulais que Simone lui donne un grand coup de main et la protège parce qu'elle était trop jeune, tu sais, trop oui. jeune pour prendre le voile.
Quel beau personnage, Simone.
Oui.
Quel beau personnage. Et est-ce que vous me permettez de lire quelques mots en page 124, justement, sur la force
oui.
du groupe? Notre
oui.
groupe de quatre, écrivez-vous, quant à lui, ben, vous faites écrire votre maman, demeurait encore plus soudé. Et nous étions convaincus que nous allions survivre. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, nous étions gonflés à bloc. Notre rage de vivre était si forte que nous n'avions qu'une seule envie, celle de cracher sur chaque Allemand. Mais ça, ça existait dans les camps. C'est-à-dire, ceux qui s'en sortaient, ce n'étaient pas les plus forts physiquement, c'était les plus forts mentalement.
Exactement. Exactement.
Hein?
Ouais. Si on pense à sa théorie qu'il suivait de Darwin, c'est pas vraiment les plus forts physiquement. Vous avez raison, c'est vraiment un état d'esprit, une envie de combattre, une envie de... La rage peut nous tenir longtemps, l'orgueil aussi. Ouais. Mais je pense pas que si ça nous arrivait maintenant, on serait capable de survivre autant que ceux qui ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il y avait déjà une notion oui. de sacrifice ancrée dans la morale, dans les familles. On faisait des sacrifices tout le temps pour avoir telle chose, pour sortir, pour... on faisait toujours des sacrifices. Donc, comment
c'est
tu
vrai.
Peux endurer pendant 4 ans des sacrifices? Comment tu peux faire ça? Pas d'hygiène... Moi, depuis que j'ai écrit ce livre-là et que j'ai écrit dans ma recherche comment ça se passait, les latrines, comment le jet d'eau pour 600 filles qui sont rentrées là-dedans, pas de protection pour les menstruations, et se faire humilier devant les officiers avec le sang des menstruations qui coulait, comment on peut passer au travers de ça? Moi, je suis dédaigneuse, je ne serais même pas capable de...
Ce que vous dites, c'est qu'on est trop gâté maintenant, qu'on vit trop dans un cocon de luxe, alors qu'à l'époque, on savait ce que c'était que le sens du sacrifice et tout ça. C'est ce que vous dites.
Oui, mais c'est correct aussi. Ouais. On a évolué, on ne peut pas toujours rester à la même place. Mais en même temps, je pense que la notion du sacrifice, nous, on ne l'a plus.
Non. Et alors, à son...
Je passe après ma cafetière quand je ne peux pas avoir mon café le matin.
Oui, c'est vrai.
Alors que ma mère a passé 4 ans sans boire. Et ce qui est arrivé dans... Elle a fait une psychose sur la nourriture après. C'est-à-dire que si on faisait... mettons, la soupe est trop salée, tout de suite, ça montait la colère. Puis elle disait, va manger ailleurs. Je t'en donne plus. Tu sais, c'est pas facile comme caractère en revenant, mais en même temps, quand tu sais tout ce qu'elle a vécu...
Bien
moi,
sûr.
Je suis tombée en amour avec ma mère après ça.
Ah oui, hein?
J'ai compris ses réactions, ses changements d'humeur. Écoute, elle passait des jours sans me parler parce qu'une fois, j'avais oublié de lui dire bonne nuit puis de l'embrasser, tu sais... Écoute, ça a été
Mais
facile, là.
Je voudrais, Lise Dion, il me semble qu'il est arrivé quelque chose... Non, on ne peut pas dire que c'est plus terrible que ce qu'elle a vécu dans les camps, mais de terriblement inhumain aussi. C'est lorsqu'elle rentre, donc parce qu'elle s'en sort de ce camp, lorsqu'elle rentre, elle est bannie par ses consoeurs et sœurs de la congrégation dans laquelle elle vivait Parce que même si elle avait prouvé qu'elle était vierge, elles étaient convaincues qu'elle avait dû subir quelques attouchements sexuels de la part des Allemands et que donc elle ne pouvait plus revêtir la robe.
Mais c'est... ça, il y a deux façons de le regarder. Ça veut dire qu'à l'époque, les filles qui rentraient en religion étaient vierges. Donc, on peut pas vraiment en vouloir à la congrégation parce que c'était dans les règles, c'était comme ça.
Oui, mais enfin, les attouchements, tout comme... ça, c'est terrible. Parce que non seulement on subit, mais en plus on se fait « Ah, moi, ça m'a... Ah, j'étais en colère !» en lisant ça. C'est vrai, j'étais en colère, Lise.
Mais pour l'époque, c'était comme ça.
Oui.
Tu vois, j'ai vu, il y avait quatre survivantes des religieuses de la congrégation des Sœurs de Brown. J'ai été les voir. Ils n'ont jamais voulu me parler de ma mère, mais il y en a une de 96 ans qui m'a dit « Ta mère n'était pas faite pour être religieuse. » Je pense que la congrégation lui rend service.
OK, alors ça, c'est une façon de voir que j'ignorais, qui me rassure.
Parce qu'elle a vécu une vie à son goût vie... éclatante, une croqueuse,
une dévoreuse de vie.
Ah non, c'est une femme extraordinaire. C'est une femme avec un sale caractère, mais une femme, un personnage.
C'est
vraiment un personnage.
C'est ça.
Donc, je pense qu'ils lui ont rendu service en lui disant « C'est fini, madame.
» Lise, il nous reste plus que 2 minutes. Il avait été question d'un film à un moment donné?
Oui, on travaille encore là-dessus.
C'est vrai?
On travaille encore là-dessus.
Donc, c'est pas... Bon.
Mon projet est monté pour la télé. Fait que là, on attend... Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent, c'est ainsi. Parce que j'aurais besoin d'un coup de main pour arranger ça pour la télé, c'est sûr. On se demandait film, on se demandait télésérie. Ouais. Alors, les auteurs sont très occupés, c'est ainsi. Donc, je peux pas... Je peux pas demander de l'aide pour tout de suite.
Non, je comprends.
J'ai tout préparé mon dossier, tout est prêt. J'ai même pris sur Internet des photos de gens qui se sont fait arrêter, qui étaient dans des camps pour essayer d'aider le réalisateur à faire un choix de comédien et comédienne.
Alors, ultime question, le coffre bleu, il est définitivement refermé?
Oui et non. Je pourrais encore avoir des surprises si je faisais des recherches, je pense.
Ah oui.
Mais pour le moment, avec la vente du livre qui a été extraordinaire... Là,
et le livre audio va bien se vendre aussi. Il faut que le livre audio se vende. Parce que lu par vous, Lise Dion, c'est encore... Il y a quelque chose d'encore plus émouvant, bien sûr.
Oui, mais... Au moins, tout ce qui a été fait pour ce livre-là, les gens qui l'ont lu, que je remercie de tout mon cœur, j'ai l'impression que ça a fait un baume et une belle crème sur les plaies de ma mère. Puis pour moi, c'est fermé dans ce sens-là. Parce que
d'accord.
C'est ce que je voulais, qu'on ne l'oublie pas.
Je suis obligée de vous interrompre, mon amie Lise Dion. Merci beaucoup d'avoir accepté Le secret du coffre bleu en livre audio sur livreaudio.vusezvoix.com. Salut Lise, gros bisous virtuels. Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie de cette émission, j'ai des petites nouvelles pour vous et quelques nouveautés. Les nouvelles d'abord, j'ai appris qu'on allait ressortir sur grand écran une énième version des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas-Père. Je me suis dit, coudonc, on manque de scénarii ou on manque d'imagination ou on manque de quoi là? Alors si je me suis demandé après tout, tant qu'à être dans l'univers romanesque d'Alexandre Dumas, qu'est-ce qui se fait dans le domaine du livre audio? J'en ai trouvé plusieurs, je vais vous présenter un petit montage de tout ça. Dans la série Bonne idée et pourquoi qu'on ferait pas ça ici, ça se passe dans la ville de Montpellier en France, les facteurs livrent des livres audio aux seniors, pas que des livres audio, des CD et des DVD, mais autrement dit aux personnes peut-être âgées ou peut-être un peu isolées en cette période de pandémie. C'est chouette, hein? Et puis, si vous vous demandez si le bouquin d'Obama est sorti en audio et en français, mes amis, ça ne saurait tarder. En fait, au moment où vous allez entendre cette émission-là, ça devrait être dans 2 jours que vous aurez accès au livre audio de Monsieur Obama. Et puis, j'ai pour vous des nouveautés incontournables, très attendues, si je vous dis Twilight, par exemple, ou encore Christophe Granger, le maître du polar bien noir, et puis tout ça avec des extraits, bien sûr. C'est l'émission des livres plein les oreilles.
Des fraises en mai et des framboises en masse, des murmures plein le mur d'en face du jardin surchargé, du jardin surchargé. Chanter tard dans la nuit, les soirs de pleine lune. C'est pour toi, Lola, oh ma brune, au pommier alourdi. Au pommier alourdi, on a pris les fruits du soleil et souvent les abeilles.
Alors ça, j'en prendrai bien encore un petit peu plus. Jean-Sébastien La Liberté qui vient de me faire découvrir Sophie D dans une reprise d'une chanson de Clémence Desrochers. D'ailleurs, si je ne m'abuse, comme tu me l'as dit tantôt, tout l'album est consacré aux chansons de Clémence Desrochers. La voix jazzy que vous entendiez derrière Sophie D est celle de Ronnie Lee. Quel duo, beaux arrangements, belle voix, sympathique. Oh! Encore, peut-être à la fin de l'émission, à la fin de la demi-heure, si on a un petit peu de temps, mais ça me surprendrait parce que j'ai pas mal de choses pour vous. J'ai trouvé un article dans le Midi Libre qui nous dit qu'Alexandre Dumas doit revenir en force au cinéma avec 3 films. Non, pas un, 3 films qui porteront sur le grand écran 2 œuvres de majeur. Vous imaginez bien lesquelles, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Et il semblerait d'ailleurs que les deux personnages centraux du récit de Dumas, notamment pour Les Trois Mousquetaires, l'épisode va s'appeler D'Artagnan et Milady, vont entrer en tournage l'été prochain. C'est ce que nous dévoilent les producteurs, en espérant certainement qu'à ce moment-là, la pandémie sera derrière nous. Écoutez, c'est évidemment, on nous annonce un film d'envergure, un film à grand spectacle, comme on dit, autant pour Les Trois Mousquetaires que pour l'adaptation du Comte de Monte Cristo, ce très long feuilleton du même Alexandre Dumas. Père qui avait été publié dans les années 1844 et 1846, quand même, hein, 2 à 3 ans de travail, d'écriture. Alors, joli cocktail pour faire un succès. D'ailleurs, succès ce fut déjà, c'est bien connu, mais on va remettre ça sur la table et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui existe, par exemple, avec le livre Les Trois Mousquetaires? Il doit bien y avoir des livres audio. Il y en a même certainement qui sont gratuits maintenant, vous savez, sur les plateformes de livres gratuits, bibliothèques et compagnie, ils ne sont plus assujettis à des droits, ces livres-là. Mais il y en a aussi qui sont, j'ose pas dire de meilleure qualité, mais qui, c'est sûr qu'ils sont plus léchés, comme on dit cela, vous les trouvez également sur des plateformes mais en livre commercial, pas cher, parce que encore là, il n'y a plus de droits là-dessus. J'en ai trouvé 3 pour Les Trois Mousquetaires. Voici un montage de 3 extraits des Trois Mousquetaires.
Il ne se cachait pas le côté ridicule que lui donnait, si bon cavalier qu'il fût, une pareille monture. Aussi avait-il fort soupiré en acceptant le don que lui en avait fait M. d'Artagnan père. « Mon fils, avait dit le gentilhomme Gascon dans ce pur patois de Béarn dont Henri IV n'avait jamais pu parvenir à se défaire, « mon fils, ce cheval est né dans la maison de votre père il y a tantôt 13 ans et il y est resté depuis ce temps-là, ce qui doit vous porter à l'aimer. » Ne craignez pas les occasions et cherchez des aventures. Je vous ai fait apprendre à manier l'épée, vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier. Battez-vous à tout propos, battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus et que par conséquent, il y a 2 fois du courage à se battre. Je n'ai, mon fils, à vous donner que 15 écus, mon cheval, et les conseils que vous venez d'entendre. Votre mère y ajoutera la recette d'un certain baume qu'elle tient d'une bohémienne. Je veux parler de M. de Tréville, qui était mon voisin autrefois et qui a eu l'honneur de jouer tout enfant avec notre roi Louis XIIIe, que Dieu conserve. Il a commencé comme vous. Allez le voir avec cette lettre et réglez-vous sur lui afin de faire comme lui. Sur quoi M. d'Artagnan père ceignit à son fils sa propre épée, l'embrassa tendrement sur les 2 joues et lui donna sa bénédiction. »
Décidément, dans sa jeunesse, ce cheval a été bouton d'or. C'est une couleur fort connue en botanique, mais jusqu'à présent fort rare chez les chevaux.
Tel rit du cheval qui n'oserait pas rire du même.
Je ne ris pas souvent, monsieur. Ainsi que vous pouvez le voir à l'air de mon visage. Mais je tiens cependant à conserver le privilège de rire quand il me plaît.
Et moi, je ne veux pas qu'on rie quand il me déplaît.
Vraiment, monsieur. Vous êtes bien hardi. Rentrons, cette querelle est absurde.
Tournez-vous donc, monsieur le railleur, que je ne vous frappe pas par derrière.
Me frapper? Mais vous êtes fou, mon cher. Normand, Picard.
Monseigneur.
Remettez ce Gascon sur son cheval orange et qu'il s'en aille.
Pas avant de t'avoir tué.
Oh, je vais être obligé de vous caresser les côtes.
Ce bâton que voici fera son office.
Arrière, Valtaille.
Et allez donc, mon gourdin.
Blanc, la bonne canne de Borisier.
Et de taille et d'estoc, mon bâton.
Solibanine.
On verra ce que monsieur de Tréville pensera de cette insulte faite à l'un de ses protégés.
Monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires?
Lui-même.
Tu donc, et ça mêle de cette écharpe volée.
Non.
Oh mon Dieu, vous l'avez tué.
n'ai plus qu'un mot à ajouter, et c'est un exemple que je vous propose, non pas le mien, car je n'ai, moi, jamais paru à la cour et n'ai fait que les guerres de religion en volontaire. Je veux parler de Monsieur de Tréville, qui était mon voisin autrefois et qui a eu l'honneur de jouer tout enfant avec notre roi Louis XIIIe, que Dieu conserve. Quelquefois, leur jeu dégénérait en bataille, et dans ces batailles, le roi n'était pas toujours le plus fort. Les coups qu'il en reçut lui donnèrent beaucoup d'estime et d'amitié pour Monsieur de Tréville. Plus tard, Monsieur de Tréville se battit contre d'autres dans son premier voyage à Paris, 5 fois. Depuis la mort du feu roi jusqu'à la majorité du jeune, sans compter les guerres et les sièges, 7 fois. Et depuis cette majorité jusqu'à aujourd'hui, 100 fois peut-être. Aussi, malgré les édits, les ordonnances et les arrêts, le voilà capitaine des mousquetaires, c'est-à-dire chef d'une légion de César, dont le roi fait un très grand cas, et que monsieur le cardinal redoute, lui qui ne redoute pas grand-chose, comme chacun sait.
Alors, vous avez entendu les voix de Guillaume Gallienne au tout début. C'était la version la plus récente des Trois Mousquetaires. Ensuite, celle de Bernard Bollet, qui est assez récente aussi. Et puis, celle avec toutes sortes de voix. C'était la façon dont on faisait des livres audio à l'époque, avec les voix de Robert Lamoureux, de Guy Tréjean et de Madeleine Barbulé. Voilà, autant de versions que vous pourrez trouver sur les plateformes de livres audio, qu'elles soient gratuites ou qu'elles soient commerciales. Au moment où vous écoutez cette émission, si vous l'écoutez le jeudi, c'est le moment où elle est disponible pour vos oreilles, on sera à 2 jours d'enfin avoir la version française du livre de Barack Obama, Une terre promise, qui s'est vendue à près de 900 000 exemplaires au Canada et aux États-Unis le premier jour de vente, imaginez. Il a battu sa femme et à plate couture. En 2018, l'ancienne première dame Michelle Obama avait publié ses mémoires « Devenir » chez Fayard, qui s'était vendu à 725 000 exemplaires dès le premier jour. Et à plus d'1,4 million exemplaires la première semaine. Alors, vous vous dites « Yes, on va avoir un excès !» Ben non, parce que c'est un gros canon. Et quand c'est un gros canon, eh bien, il n'y a pas d'excès avant l'heure. Mais je voulais vous dire que, vu que j'enregistre l'émission 2 semaines plus tôt, eh bien dans 2 jours, ça va sortir. Vous allez trouver ça sur toutes les plateformes de livres audio. Et puis une bonne nouvelle que j'aimerais peut-être voir ici au Québec, pourquoi pas, c'est un partenariat entre la Métropole et la Poste qui implique les médiathèques notamment et qui va permettre aux seniors de Montpellier et bientôt d'autres villes françaises de disposer de ressources culturelles. Par le biais de qui ? Eh bien par le biais du facteur. C'est le facteur qui ira livrer directement chez les personnes qui se sentent isolées pendant le confinement, eh bien, qui iront leur livrer des CD, des DVD ou encore des livres audio. Une bonne occasion de réécouter cette musique que j'adore, signée Ennio Morricone, Il Postino.
Thank you.
s'en lasse pas. Hein. Musique de Ennio Morricone. Bon, alors quelques nouveautés telles que promis. Ah ben, vous êtes peut-être des amoureux de la série Twilight. Eh bien, voici qu'arrive sur le marché Midnight Sun de la même Stephenie Meyer. C'est lu ici par Thomas Roditi, qui est la voix officielle d'ailleurs de Edward Cullen en français dans la série. Alors, la rencontre entre Edward Cullen et Bella Swan dans Fascination, le premier tome de la saga Twilight, a donné naissance à une histoire d'amour iconique, ça, on le sait toutes et tous, même si on n'a pas lu le bouquin. Mais jusqu'à présent, les fans n'avaient pu lire de cette histoire que la version de Bella. Eh bien, ce conte inoubliable prend à travers le regard d'Edward un tout nouveau et résolument sombre tour. Alors, la rencontre de Bella constitue dans sa longue vie de vampire l'expérience la plus intrigante et la plus troublante qui soit. Mais plus nous apprenons de détails sur le passé d'Edward et la complexité de son monde intérieur, et mieux nous comprenons que cet événement constitue le combat déterminant de son existence. Je vous invite donc à découvrir ce nouvel opus de la mythique saga, narré avec brio par Thomas Roditi, la voix, je vous le disais, officielle d'Edward Cullen au cinéma.
La culpabilité ne m'envahissait qu'à l'égard de ceux qui ne tenaient pas à ce que je sois au courant de certains secrets. Si l'esprit de Rosalie était une flaque stagnante, celui d'Emmet était un lac aux eaux cristallines. Jasper, lui, souffrait. Je réprimais un soupir. Edward. M'ayant interpellé mentalement, Alice eut droit à toute mon attention. J'aurais réagi pareillement si elle m'avait hélé tout fort. J'étais heureux que mon prénom se soit démodé au cours des dernières décennies. Par le passé, dès qu'une personne avait pensé à un Edward, j'avais eu le réflexe de me manifester. Ça avait été très agaçant. Là, je ne bronchais pas. Alice et moi étions passés maîtres dans l'art de ces conversations privées, et il était rare qu'on nous y prenne. Je continuais de fixer les fissures.
« Il tient le coup ?»
me demanda-t-elle. Je fronçais les sourcils de manière imperceptible afin de ne pas nous trahir, comme par simple ennui. Jasper était immobile depuis trop longtemps. Il n'imitait pas les tics humains, règles que nous suivions pour éviter de nous distinguer. Emmet se tirant les cheveux, Rosalie croisant ses jambes, Alice tapotant le lino de ses pieds, ou moi, pivotant de temps à autre afin de regarder d'autres dessins sur le mur. Raide comme la justice, Jasper semblait paralysé. Même sa chevelure blonde paraissait insensible à l'air chaud que dispensaient les bouches d'aération.
Cours-t-on un risque ?
Le ton d'Alice était de plus en plus inquiet, et elle surveillait notre frère à la dérobée. Elle se projeta dans le futur immédiat, cherchant l'origine de mon froncement de sourcils au-delà de l'ennui dans lequel je baignais. Sans oublier de poser son menton pointu sous son poing menu et de scier régulièrement.
Christophe Granger, ça c'est celui à qui on doit par exemple Les Rivières Pourpres, énorme succès autant sur papier qu'au cinéma. Eh bien, il nous revient avec Le Jour des Cendres. C'est lu par Thierry Blanc, c'est une production de chez Audiolib, d'ailleurs comme l'est également Midnight Sun de la saga Twilight dont je viens de vous parler. Alors, Le Jour des Cendres, nous sommes dans un monde de pure innocence, mais quel peut être le mobile d'un tueur? Dans une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler? À moins qu'à l'inverse, le coupable soit le seul innocent de la communauté. C'est une enquête de Nîmes, le célèbre commissaire justement des Rivières Pourpres dont je vous parlais, qui nous plonge dans des abîmes aussi effrayants que délectables, avec un Thierry Blanc qui nous revient avec sa voix grave et chaleureuse, incarné à merveille ce commissaire aussi chevronné qu'incontrôlable, frisson garanti.
C'est quoi l'histoire ? Relança Ivana. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? T'es de la police ? Elle se força à rire. Non, sans déconner, insista-t-elle. Il y a une semaine, raconta enfin Marcel, la voûte d'une vieille chapelle située à côté du domaine s'est effondrée. Il y avait un gars en dessous, un type important de la communauté.
Le chef ?
Il n'y a pas de chef ici. Mais Samuel était l'évêque, celui qui dirige la messe. Il dirigeait rien d'autre. Je vais te dire un truc, ma grande. Tu poses trop de questions. Le camion s'engagea sur un chemin de terre, les noyant d'un coup dans un nuage de poussière. Autour d'eux, les rangs des vignobles lui rappelaient les croix du cimetière américain de Suresnes. Au hasard des placements de l'aide sociale à l'enfance, elle avait passé plusieurs années dans ce coin-là, quand elle était môme. « La chapelle est en rénovation, » reprit soudain Marcel, parlant plus fort pour couvrir le bruit des soubresauts. « Je crois que des échafaudages se sont cassés la gueule et que tout s'est écroulé. Samuel a été écrasé par les moellons. »« C'était un accident ?» Marcel n'eut pas le temps de répondre. Les camions s'arrêtaient.
Et après, alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez être obligé de vous procurer Le Jour des Cendres de Christophe Granger, production Audiolib, lu par Thierry Blanc. Chez Gallimard, qu'est-ce qu'on nous propose dans la collection Écoutez lire? Ah oui, ça. J'ai trouvé pour vous un livre de Gilles Le Gardinier qui s'appelle Une chance sur un milliard, dont on nous dit sur le site de Gallimard d'abord un extrait. Je pense que c'est l'extrait. C'est peut-être un extrait qu'on va entendre tantôt. Alors, j'aime mieux me passer de vous le lire, vous allez l'entendre. On nous dit, à travers une histoire aussi réjouissante qu'émouvante, Gilles Le Gardinier nous entraîne au moment où chacun doit décider de ce qui compte réellement dans sa vie. Plus de temps à perdre, plus question de s'égarer, se jeter sans filet, remettre les pendules à l'heure, dire, faire, espérer, aimer. Libre comme jamais. Cette fois-ci, une autre voix très chaude, c'est celle de Bernard Gabet, qui, nous dit-on également sur le site de Gallimard, écoutez lire, cette voix de Bernard Gabet qui nous emporte avec tendresse dans l'histoire émouvante d'Adrien, extrait.
Je venais d'avoir 11 ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. Il faisait nuit, un peu froid. Ça s'est passé dans le garage de mes grands-parents. C'est drôle. En repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont vraiment compter. Il règne ce soir-là une paisible atmosphère de fin de vacances. Même si je ne suis pas encore capable de l'analyser, je la ressens profondément. Un bonheur discret, presque banal, un décor familier dans lequel tous ceux qui constituent mon monde jouent parfaitement leur rôle. Mais une autre aventure m'attend. Ne pas oublier ma lampe torche. Sortir discrètement de la maison, la contourner en me méfiant du crissement de mes pas sur le gravier pour rejoindre la dépendance attenante. Un petit hangar plein à craquer, un capharnaüm labyrinthique, promesse de fabuleuses découvertes. Nous n'avons, en principe, pas le droit d'y pénétrer, mais aucun adulte ne nous l'a formellement reprécisé cette année. Ce vide juridique permet à ma conscience de m'accompagner sans tomber dans les pommes. Je risque cependant gros si je me fais prendre.
Une chance sur un milliard, lu par Bernard Gabet, un livre de Gilles Le Gardinier. Si on se remettait un petit peu de Sophie Day pour finir.
On me cueillit des fraises en mai et des framboises en masse. Des murmures. Là, le mur d'en face du jardin surchargé. Du jardin surchargé, on a vu deux fois l'arc-en-ciel. Souvent les hirondelles volaient bas pour nous épater. On a eu un bien bel été. On a eu un bien bel été.
émission aussi, je pense. Émission des livres plein les oreilles, proposée pour vous et animée par Clotilde Seille sur les ondes de CKVL ou encore sur les ondes de Canal M ou encore par balado, quand bon vous semblera. Je voudrais remercier Lise Dion d'avoir accepté de donner sa voix pour la lecture de son propre livre Le secret du coffre bleu et d'avoir répondu à ma question aussi. Et puis je voudrais remercier l'ami Jean-Sébastien Laliberté, entre autres, pour cette belle découverte de Sophie D. Bonne semaine, oui, et bonne lecture. À la semaine prochaine, salut.
On a eu un bien bel été.